France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, Canal 16 désormais, et en partenariat avec le journal Le Monde. Cela fera un an demain qu'Emmanuel Macron a prononcé sa dissolution. Un an après, les Français restent mécontents. C'est une mauvaise décision pour 7 personnes interrogées sur 10. C'est ce qu'on lit dans la presse ce matin. Et les deux tiers considèrent que cette dissolution n'a pas été une opportunité pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. L'Assemblée est donc toujours sans majorité. Et il va falloir réussir à faire voter un budget, pas n'importe lequel, un budget avec 40 milliards d'euros d'économies. Où les trouver ? Pour l'instant, rien n'a filtré, sans doute parce que rien n'a encore été décidé. 6 mois avant les élections prochaines municipales, qui votera ce budget et qui le censurera ? On en parle avec notre invité, Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances. Il est dans Questions politiques ce dimanche, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Éric Lombard.
Bonjour Karine Bécard.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour à
Bonjour.
Toutes les deux, mesdames.
Bonjour.
Bonjour, mesdames.
L'émission
Bonjour.
Commence
Monsieur
toujours avec vos images de la semaine à tous les trois, ce qui nous permet de revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité. Quelle est l'image, vous, Éric Lombard, qui vous a particulièrement marqué cette semaine ?
Loïs Boisson. Loïs Boisson, c'est cette jeune tennisman. Je ne sais pas que je sois tellement un fou de tennis, mais franchement, cette jeune femme originaire de Dijon, et je salue François Rebsamen, qui s'est hissée en demi-finale à Roland-Garros, alors qu'elle avait une wild card, elle avait été invitée, avec un talent, une énergie, une trajectoire absolument magnifique. Puis alors, ce que je trouve aussi remarquable, c'est le calme et la sérénité. Je comprends par vos confrères que quand on lui demande, mais la pression médiatique, je suis bien entouré, on va gérer ça comme le reste. Je trouve que beaucoup de sérénité et voilà, je lui souhaite un très beau parcours, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le tennis français, c'est une bonne nouvelle pour la France. Voilà, c'est la jeunesse, c'est le talent, c'est bien.
Et vous êtes aussi serein qu'elle, puisque c'est sa sérénité, visiblement, son point fort, d'après ce que vous dites. Est-ce que vous avez autant de sérénité que Loïs Boisson ?
Moi, je suis très serein, parce qu'on a un sujet très sérieux, qui, en fait, concerne l'ensemble des Français. Et donc, je suis convaincu que dans le dialogue, qui est la méthode que le Premier ministre souhaite, et c'est aussi la méthode qui m'est naturelle, on réussisse à faire avancer les choses. Et malgré l'absence de majorité que vous rappeliez, c'est peut-être l'occasion de faire des choses de grande ampleur. En tout cas, c'est bien ce que nous souhaitons faire avec le gouvernement.
Eh bien, on va en parler tout au long de cette émission. Autre image de la semaine, la vôtre, Françoise Fressos.
Alors moi, j'ai retenu quelque chose autour de suspension de ma prime Rénov, ce qui était un dispositif grand public qui permettait de mieux isoler son logement et de réduire les émissions à effet de serre. Alors, les raisons invoquées sont très compréhensibles, ça s'emballe, ça coûte cher et il y a beaucoup de fraude. Le problème, c'est que ça s'inscrit dans une série de décisions où on a l'impression que toute la politique écologique du quinquennat est détricotée. Il y a eu la suppression des zones à faible émission, le recul sur le zéro artificialisation des sols, la réintroduction d'un pesticide. Et donc, le message est très mauvais, notamment parce qu'on a aussi dans une sorte de révolution conservatrice où l'écologie est remise en cause. Alors, tout ça a conduit le président de la République hier, juste avant l'ouverture du troisième sommet des océans, à pousser une sorte de cri à destination de son gouvernement. Je ne suis pas content de ce que j'ai pu voir ces derniers jours. J'attends du gouvernement qu'on maintienne cette politique et je ne veux pas qu'il cède. Non plus ceux du Parlement aux facilités du moment. Alors, je trouve que la mise au point est assez spectaculaire, est assez bienvenue, mais en même temps, il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre pourquoi sur cette politique écologique, on en a besoin, il faut agir, pourquoi ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut remettre à plat les choses. Par exemple, sur la prime Rénov', est-ce qu'il faut faire systématiquement du crédit d'impôt ? Est-ce qu'il ne faut pas faire du prêt bonifié ? Est-ce qu'il ne faut pas décentraliser davantage le dispositif ? Autrement dit, avant de repartir, est-ce qu'il ne faut pas remettre à plat les choses. Monsieur le ministre, là-dessus, je vous interpelle parce que vous êtes en première ligne.
Alors, je voudrais déjà que vous répondiez effectivement à ce que disait Françoise, à ce que disait le président, à ce qu'il dit ce matin dans la presse quotidienne régionale. Il va même plus loin que ce qu'a dit Françoise. Sur ma prime rénov, il dit « c'est une faute historique ». C'est très fort. Vous lui répondez quoi ? Faute historique ou pas ?
Le président de la République a raison. D'ailleurs, il a présidé il y a quelques semaines à l'Élysée un conseil de la planification écologique et c'est une priorité absolue. Une priorité absolue. Sur ma prime rénov, je veux non seulement le rassurer, mais surtout rassurer l'ensemble des Françaises et des Français. C'est un excellent dispositif. C'est un dispositif qui s'est emballé. Parce que il y a eu la censure qui a conduit à l'absence de budget. Pendant ce temps-là, le guichet était fermé, parce que le budget n'était pas voté. Et puis ensuite, il y a eu une multiplication des demandes et une multiplication des fraudes qui fait que les services sont très engorgés. Il faut aussi penser aux agents qui gèrent cela. Donc, c'est une suspension. C'est une
à partir
suspension.
De quand elle commence quand la suspension
au plus tard, le 1er juillet, c'est-à-dire que d'ici là, les dossiers peuvent continuer à déposer. D'ailleurs, les dossiers qui ont été approuvés continuent à donner lieu à travaux, les travaux seront remboursés. Mm-hmm. La suspension va nous permettre de remettre de l'ordre, de peut-être changer les processus pour que ça aille plus vite.
Vous allez aussi, avoir besoin de combien de temps pour remettre de l'ordre ?
J'y viens. Aussi, pour traiter un dossier sur 10, c'est un dossier frauduleux, c'est de l'argent public. Donc c'est aussi important de corriger cela, de façon à ce que le guichet soit ouvert au plus tard à la fin du mois de septembre. Ah. Donc c'est une suspension pendant les mois d'été où, honnêtement, il se passe quand même moins de choses. Encore une fois, je veux aussi rassurer les artisans. Tout ce qui est engagé va se poursuivre. Et puis, dès qu'on peut, on rouvre le guichet. Il n'y a pas d'arrière-pensée budgétaire derrière ce point. Il y a un budget de plus de 3 milliards d'euros qui est engagé pour ma prime rénov, qui n'est pas consommé du tout.
C'était et donc 4 milliards à un moment quand même.
3 milliards 6.
3 milliards 6.
Cette année, dans la loi de finances, 3 milliards 6. Ce qui est considérable, ça devrait nous permettre. De toute façon, c'est un guichet. Si jamais la demande est supérieure, on adaptera. Parce que c'est très important qu'on puisse faire de la rénovation énergétique. Et sur l'ensemble des sujets de transformation écologique, nous sommes à la manœuvre. Sur l'électrification, j'étais il y a peu de temps avec mon collègue Marc Ferracci pour rappeler qu'on aura dans quelques années 7 millions de bornes de recharge. Donc je dis aux Françaises et des Français, vous pouvez acheter des véhicules électriques, vous pourrez les recharger non seulement le long des autoroutes, mais dans l'ensemble des endroits. On a perdu, il faut l'admettre, au Parlement sur les zones à faible émission, les ZFE. Mais nous souhaitons évidemment maintenir les zones à faible émission. Il y a 40 000 personnes qui meurent chaque année en France de la pollution. Donc tous les sujets de transformation écologique sont au cœur de nos priorités.
Sur la prime rénov, pour être plus précis, comment éviter, si on remet en place le dispositif, de rebuter sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire les filières artisanales ne sont peut-être pas très au point, il y a eu beaucoup de procédures bureaucratiques qui ont changé, il y a de la fraude, comme vous dites, est-ce qu'on peut expertiser et éviter de refaire les mêmes erreurs.
Je donnais l'exemple de quelque chose que j'ai eu à gérer quand j'étais directeur général de la Caisse des dépôts, c'est mon compte formation, où il y a eu au début un certain nombre de fraudes, on a mis en place des systèmes et on sait faire ça. Tout ce qui est service digital donne lieu, notamment dans sa phase d'installation, à des faiblesses qui donnent lieu à des fraudes, et puis après on se protège et donc on va protéger le système, on va faire en sorte qu'il fonctionne et on va être comme est l'État en permanence dans un processus d'amélioration continue. En tout cas, c'est une mission importante et nous souhaitons la rétablir dès que possible.
Nathalie. Donc début septembre le rétablissement, vous dites ?
Fin septembre, à partir du 1er juillet jusqu'à la fin septembre.
Avant la fin septembre. Et quant aux artisans, ils sont les premiers et j'ai eu le président du bâtiment vendredi soir au téléphone à être inquiet de la situation. Parce
Mais ils râlent très fort, c'est pas juste inquiet, c'est ils râlent très fort.
Ils envisagent d'aller avec une grue, avec des grues pour bloquer.
Oui, mais parce que peut-être n'ont-ils pas pris en compte ce que je viens de vous dire, que c'est une suspension pendant l'été pour assurer et que nous reprenons
dès que possible. Mais ils parlent de cascade de faillite quand même. Vous avez mesuré effectivement l'impact de 3 mois de suspension ? Ça peut coûter cher au bâtiment ou pas ?
J'espère vivement qu'une suspension pendant l'été d'une procédure qui n'existait pas il y a 3 ans n'aura pas d'effet.
Juste une toute petite précision. Est-ce que quand on entend Emmanuel Macron, qui donne l'impression d'être en colère. Tout le monde est en colère en ce moment, Édouard Philippe, Emmanuel Macron. Vous l'aviez prévenu ou alors il est tombé de sa chaise en apprenant ça, de la suspension de ma prime rénov'?
Alors,
c'est une colère feinte.
Le président de la République, j'imagine, est informé de ce que fait le gouvernement, mais peut-être mais pas imaginez, à chaque instant. Et donc, dans le fonctionnement du gouvernement, c'est une décision qui a été prise, évidemment, en tout premier lieu...
Avec le Premier ministre
Non, puis par ma collègue Valérie Létard, qui est en charge, et qui nous demande instamment, d'ailleurs, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'État, Valérie Létard, qui fait un travail magnifique pour le logement. Donc, c'est de l'interministériel, avec, évidemment, le Premier ministre. Moi, je n'évoque pas ces sujets avec le président de la République.
Ah bon, quand vous êtes parti en tournée en Asie, vous revenez d'une tournée en Asie avec lui, vous n'avez pas du tout l'occasion de parler effectivement de MaPrimeRénov et de la suspension
d'un... J'ai l'occasion de parler avec le président de la République,
une prime importante.
J'admets que je n'ai pas parlé de MaPrimeRénov avec le président de la République.
Attends, c'est long le voyage en Asie, ça aurait pu...
Voilà, non, on a parlé de beaucoup de choses, mais vous savez, on a surtout travaillé à préparer chaque étape. On a fait 4 étapes.
Non, mais vous vous attendiez à ce que ça débouche sur une espèce d'instabilité, comme le dit Emmanuel Macron d'ailleurs, en disant si on change les trucs tous les deux jours, les règles du jeu, c'est...
On aurait pu faire un peu plus de préparation avec les acteurs. La réalité, c'est qu'il y a une fuite dans la presse.
D'accord.
Et
d'accord.
J'ai été interrogé par un sénateur, et naturellement, je me devais de dire au Parlement de la République la réalité des choses. Donc, on n'a pas pu préparer le terrain comme on l'aurait souhaité.
En tout cas, on a Emmanuel Macron qui est sévère ce matin dans la presse vis-à-vis du gouvernement.
Mais il a raison d'être mobilisé, nous le sommes aussi, encore une fois, pour traiter les sujets de transformation écologique.
Donc, il a raison d'être sévère.
Oui, bien sûr, c'est son rôle.
Enfin, il ne facilite pas la tâche.
Allez, on termine avec Nathalie Saint-Cricq. Quelle est votre image de la semaine à vous ?
Mon image de la semaine, c'est le triomphe d'Olivier Faure, même si l'expression est un peu forte, puisqu'il l'a emporté de 51%. C'est encore moins. Dieu merci, ça nous a évité Marseille, c'est-à-dire des bisbilles toute la nuit pendant 2 jours de contentieux.
Voilà,
on n'est pas passé loin, mais finalement, ça, c'est à vos proches. Alors, je ne sais pas si le mot ami ou proche, lequel est le plus adapté. Ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que ça va changer, vu que ce n'est pas son premier mandat. Et qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment le changement, c'est maintenant, c'est plutôt la continuité qui l'emporte. Qu'ensuite, on peut s'interroger sur les règles d'alliance, à savoir, certes, pas Mélenchon, mais peut-être LFI dans des accords locaux, notamment pour les municipales, ce qui n'était pas le cas de la position de Nicolas Meyer-Rossignol, qui, lui, avait dit des choses relativement claires. On peut s'interroger également sur un élargissement du Parti Socialiste. Est-ce que ça ira jusqu'à place publique ? Est-ce que ça sera la ligne social-démocrate qui l'emportera sur la ligne Ayouch-Tout ? Et comment, vous, personnellement, vous percevez ça ? Est-ce que, finalement, la motion de censure se rapproche plus que si c'était quelqu'un d'autre ? Et est-ce que vous redoutez la ligne Olivier Faure, si tant est qu'elle soit définie clairement ?
Alors, première chose, il a été élu.
Bonne
je lui ai adressé un message de félicitations.
Ça,
et je ne me mêle pas de l'avis des partis.
Enfin, c'est
pas vous négociez avec eux quand même. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, sur les alliances, moi, j'ai lu une interview chez un de vos confrères ce matin où Olivier Faure exclut une alliance d'ensemble avec LFI.
Nationale d'ensemble.
Je le cite. Hein. Et constate, parce que ça c'est la vie politique française, qu'il peut y avoir, en fonction des considérations locales, des alliances locales, et que ça, voilà, on verra bien. Moi je pense surtout que la ligne du Parti Socialiste, il y a des instances dans ce grand parti, et dans la discussion qu'on avait eue qui aboutit au fait que le Parti Socialiste ne nous censure pas, on a parlé avec le patron du parti, Olivier Faure, avec les présidents des deux groupes, Boris Vallaud à l'Assemblée nationale, Patrick Kanner au Sénat, et que les décisions
soutenait Nicolas Meyer-Rossignol.
Et que les décisions étaient validées par les instances du Parti Socialiste. Donc, les situations bougent, la situation politique internationale change. Je ne sais pas ce que va faire le Parti Socialiste par définition. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons continuer à dialoguer avec le Parti Socialiste, comme avec l'ensemble des partis, d'ailleurs. Simplement, s'il faut chercher des accords, on ira plus le chercher avec le Parti Socialiste, mais aussi d'ailleurs avec le Parti Communiste ou avec les Verts, avec lesquels nous avions dialogué jusqu'au bout, au mois de janvier et au mois de février,
pour le précédent budget,
pour rechercher avec eux les voies d'un accord, en tout cas, de non-censure. Et puis le Parti Socialiste se déterminera. Et j'aborde cela avec sérénité, parce que dans la gravité de la situation, quel que soit le choix qui est fait, c'est un choix qui engage le pays, et je suis confiant que ce choix nous permettra de mettre le pays sur une bonne route.
Je suis femme de ménage. Et je suis animatrice cantine sur le temps du midi. Donc c'est sûr que je ne me vois pas arriver jusqu'à 66 ans et demi.
Déjà 64, je me suis dit bon, pourquoi pas, et encore, mais 66, même si c'est que 2 ans dans une vie, voilà, j'ai 25 ans, 2 ans, ça représente beaucoup.
Si j'ai un travail qui n'est effectivement pas hyper physique, que je suis en bonne santé et que c'est toujours intéressant, oui, pourquoi pas, oui.
Voilà la réaction de quelques Français après le dernier rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, rapport qui sera publié officiellement la semaine prochaine, jeudi. Les dépenses pour financer les retraites augmentent peu, en revanche les ressources continuent de diminuer. Il y aura au fil du temps de moins en moins d'actifs pour les financer, ces retraites. Résultat, le COR préconise de travailler encore plus longtemps, jusqu'à 66 ans, dès 2045. Éric Lombard, est-ce que ça veut dire que le conclave que vous aviez mis en place avec François Bayrou, est-ce que ce conclave, est mort et enterré ?
Alors, ce que dit le rapport du COR qui a fuité, mais enfin il semblerait que ce soit une version à peu près définitive, c'est que à partir de 2030, c'est quand même pas tout de suite.
Dans 5 ans.
Il faudra travailler peut-être plus longtemps, disent-ils. Et l'horizon fixé à 2070, qui pour le coup est vraiment dans longtemps. Moi, je constate... D'abord, peut-être, prenons un peu de recul pour regarder ce que dit le COR sur la situation économique générale, parce que ça, c'est un point important et qui dépasse la question des retraites. Ce que dit le COR, c'est que les dépenses sociales en France sont comparables à celles des grands pays développés par habitant. Ce qui est intéressant, parce que on dit parfois notre modèle social, il est coûteux. Non, ils disent le modèle social, il est dans la dépense comparable. En revanche, ce que dit le COR et ce que disent d'autres économistes, c'est que la quantité de travail, ce que nous produisons en France, ne suffit pas à le financer, puisque nous sommes en décalage en production de richesses par an, ce qu'on appelle le produit intérieur brut par habitant. Donc, ce que produisent en moyenne les Français chaque année est en décalage de près de 20%. Face à nos grands concurrents et aux pays de l'Union européenne.
Donc c'est l'éternel problème de « on ne travaille pas suffisamment ».
Et le « on ne travaille pas suffisamment », je viendrai sur les retraites après, c'est d'abord un problème d'organisation collective. C'est-à-dire que même si le chômage a baissé fortement depuis 7 ans, depuis 8 ans, il reste encore trop élevé. Mais surtout, on a trois points où il y a une insuffisance de quantité de travail. Les jeunes. On ne réussit pas à intégrer les jeunes assez tôt sur le marché du travail. Et je sais que c'est les ministres Catherine Vautrin et Astrid Panosyan-Bouveille qui en ont la charge, qui sont très engagés sur ce point, parce que les jeunes, ils ont envie de travailler. Donc il y a une question de formation, il y a une question d'accès à l'emploi.
Non mais les jeunes, les anciens, enfin les seniors, etc., on sait tout ça.
Oui,
la question, c'est,
faut,
ma question était précise, c'était ce conclave. Les Français attendent vraiment son résultat. Et donc du coup, avec ce qui est annoncé par le COR, le conclave, il tient toujours ou pas? Ou est-ce que ça sert encore à quelque chose de réfléchir à... Change la réforme des retraites de 2023 ou est-ce que c'est caduque ?
Mais je veux rappeler que la quantité de travail, elle touche aussi les seniors, et que les ministres que j'ai cités s'en occupent, et aussi le temps de travail dans la vie professionnelle avec plus de congés maladie chez nous qu'ailleurs, et ça renvoie peut-être aussi aux questions de bien-être au travail. C'est un domaine, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, et puis un peu un sujet de vacances. Donc on a une question de quantité de travail qui nous permettrait de régler une bonne partie du sujet. Alors, si on en vient au conclave...
Voilà.
Moi, je fais confiance aux partenaires sociaux. Effectivement, avec le Premier ministre, avec Catherine Vautrin, avec Astrid Panosyan-Bouveille, on pensait et on pense...
Reprenons les choses. Ce conclave, il a été demandé par les partenaires sociaux parce qu'ils voulaient revenir sur les 64 ans. Là, en fait, le rapport du COR leur dit « Non, on ne va pas revenir sur les 64 ans et il faudra sans doute se projeter dans « on travaillera plus ». Est-ce que ce n'est pas la provocation de trop qui fait que, au fond,
ce conclave
tout va clasher d'ici le 15 juin
Alors,
où on doit avoir la fin de ce conclave ?
Je pense que la provocation de trop serait si je leur faisais une recommandation, ce que je ne ferais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient demandé instamment. En tout cas, ils ne l'ont pas tous demandé, ce conclave. Mais nous étions très désireux, avec le Premier ministre, de leur confier cette responsabilité. Moi, je leur fais confiance. Les travaux avance, on leur parle, le gouvernement, je reconnais, mais on leur parle avec respect pour écouter les uns les autres. Moi-même, j'ai vu Patrick Martin, j'ai vu les représentants de la CPME, Marie-Lise Léon de la CFDT. Ils sont en train d'avancer, ils ne nous disent pas tout. Tout cela se fait d'abord dans une façon de travailler qui est différente de ce qui se faisait avant dans la négociation sociale. C'est-à-dire qu'on le fait dans des bâtiments qui relèvent de l'État, donc qui sont neutres par rapport au sujet. Nous avons nommé un tiers, qui est Jean-Jacques Marette, qui est un grand connaisseur, qui organise ces débats, qui va faire des propositions, parce que ça va converger dans les jours qui viennent. Encore une fois, je leur fais confiance.
Des syndicats. La CFDT, Marie-Lise Léon, disait, voilà, moi je souhaite qu'il y ait une proposition pour revenir à un âge de départ à la retraite à 63 ans. Est-ce qu'au vu de ce rapport du corps, c'est encore possible que ce genre de proposition soit posée sur la table et qu'ensuite on en débatte à l'Assemblée nationale ?
La règle que nous avons posée, c'est de réduire le déficit des retraites. Et on sait qu'il y a beaucoup de curseurs qui permettent de le faire, donc c'est leur responsabilité d'y travailler, donc je ne vais pas m'en mêler. Je veux juste relever un des points qui a été cité par les personnes que vous avez interviewées, et dont tous les acteurs disent que ça sera un point important de l'accord, c'est la pénibilité. C'est quel que soit l'accord qui est trouvé, je pense qu'il y a un consensus, on peut dire, sur le fait que, en tout état de cause, pour les métiers pénibles, pour les métiers difficiles, et on sait que c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, là, il faut, en tout état de cause, un traitement particulier. Mais, encore une fois, je fais confiance aux partenaires sociaux, et c'est important, pas pour leur mettre la pression, mais cette décision sera importante. Dans le déroulement de cette année politique.
Elle interviendra quand, cette décision ?
Autrement dit, est-ce que c'est important parce que, pour vous, c'est est-ce qu'un certain nombre de partenaires sociaux peuvent se réemparer du sujet et sortir du blocage politique ?
Si un débouché positif, ça montrera qu'effectivement les partenaires sociaux ont réussi à trouver une solution à un sujet politique qui est compliqué. Vous savez, moi j'ai travaillé avec Michel Rocard qui avait dit que la première retraite ferait sauter 20 gouvernements. Finalement, peut-être que c'est plus que ça même. Mais bon, donc ce serait, je trouve, un vrai progrès de notre démocratie collective. Et il y a d'autres sujets, on va sans doute en parler, qui sont sur la table, notamment la proposition qui a été faite par le président de la République sur le financement de la sécurité sociale. Et donc, si les partenaires sociaux trouvent un accord entre eux sur cette question des retraites, eh bien, ça ouvre des champs nouveaux. Et je pense que ce serait un progrès, surtout à un moment où on voit bien que le Parlement, où il n'y a pas de majorité, a un peu de mal à coucher de consensus, notamment dans le domaine social.
Dernière question, Nathalie,
vous qui connaissez bien le dossier, justement, retraite
aux impôts.
Ayant travaillé avec Michel Rocard, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont tous irresponsables, les autres partis politiques, que ce soit le Rassemblement national, mais la gauche aussi, en faisant croire aux gens qu'on peut revenir encore plus avec le rapport du corps, et notamment quand vous parlez avec votre ami Olivier Faure, je vous poursuis avec ça, est-ce que, en gros, vous n'avez pas envie de leur dire, mais vous savez très bien que ça ne tiendra pas. Peut-être, et toute petite autre question, quand Édouard Philippe propose de la capitalisation, est-ce que philosophiquement, vous, ou par principe, sans employer des grands mots, vous y êtes favorable ou hostile ?
Alors, sur votre premier point, il y a une différence historique entre les partis qui sont au gouvernement et qui doivent gérer les comptes et puis les partis qui sont dans l'opposition.
Oui, mais c'est pas une raison. Quand on veut gouverner, on peut se préparer. Enfin, dans l'opposition.
Ok, c'est dit.
Voilà.
Deuxième question.
Et sur la capitalisation, si on avait eu la capitalisation, on sait que le rendement des investissements sur les marchés financiers est supérieur au taux de croissance de l'économie et donc ça aurait aidé à la solution. Là, aujourd'hui, si on lance la capitalisation, c'est sûrement utile, mais ça ne va pas régler le problème
non,
de court
terme.
Mais
dans l'avenir, est-ce que, par principe, vous dites...
Vous encouragez les Français à le faire ou pas ?
Comme certains le font.
Alors, le problème de la capitalisation, c'est que dans l'organisation actuelle, c'est inégalitaire. C'est que c'est ceux qui ont de l'argent, donc
ceux qui ont
les revenus les plus élevés, qui peuvent le placer. Et si on devait faire une capitalisation obligatoire, qui le financerait ? Les entreprises, on voit bien que les marges sont serrées et il n'y a pas de quoi prélever. Donc ça demanderait une réflexion plus large sur l'organisation. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est une incitation. Et l'incitation à investir, ça, effectivement, j'y tiens d'ailleurs, petite minute de publicité, on a réuni les ministres des Finances de 7 pays européens à Bercy jeudi pour lancer le label Finance Europe, pour un produit européen qui doit s'investir plus dans l'économie européenne, et j'incite les Françaises et les Français à souscrire des produits qui ont ce label, parce que effectivement, ça augmente l'épargne, ça permet de financer la retraite. En faire un élément obligatoire, je suis pas sûr que ce soit le bon moment. On a des priorités plus brûlantes sur la question des retraites.
Et le conclave, il se termine quand ? Le 17, comme
alors,
c'est dit,
il se termine officiellement le 17, peut-être décideront-ils d'arrêter l'horloge pendant quelques jours. C'est de leur responsabilité. On n'est pas à quelques jours près. S'ils signent le 17, c'est...
Mais vous
restez
confiant, vous. C'est ça
bien.
Qu'on comprend.
Je reste confiant parce que il y a un sens de grande responsabilité qui est partagé. Après, il faut qu'ils trouvent un accord. et je ne crois pas qu'ils y soient encore, mais c'est normal qu'une discussion aussi difficile,
complexe et voilà, soit longue.
À la fin.
Venons-en très concrètement au budget, à la construction du prochain budget, celui de 2026. 40 milliards d'euros d'économies sont donc à trouver, comme je disais en introduction. Le Premier ministre François Bayrou a précisé que des efforts seraient demandés absolument à tous les Français. Est-ce que cela veut dire que certains impôts vont augmenter? Vous allez nous expliquer tout cela. D'abord, je voudrais vous faire écouter le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Il était cette semaine l'invité de la matinale de France Inter.
Les impôts, il y a une overdose. Faisons très attention. Aujourd'hui, vous le savez, l'attachement à la démocratie, l'attachement à la République, c'est aussi le consentement à l'impôt, c'est le respect de la loi.
Overdose fiscale, dit Xavier Bertrand. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Éric Lombard?
Oui, ça avait été dit d'ailleurs par un de mes prédécesseurs il y a quelques années déjà.
Pierre Moscovici,
pour ne pas le citer, aujourd'hui premier président de la Cour des comptes. L'axe de travail qui est le nôtre, c'est la maîtrise de la dépense publique. C'est la maîtrise de la dépense publique.
On va en parler juste après. Les impôts, augmenter ou pas? Les Français, ils ont besoin de savoir.
Non, nous ne souhaitons pas augmenter les impôts des Français, pas augmenter les impôts des entreprises, nous souhaitons maintenir le niveau des prélèvements obligatoires. Ensuite,
voilà, en fait, c'est là où il y a une sorte d'ambiguïté. C'est-à-dire que vous dites, on ne va pas faire de hausse générale d'impôts, mais il peut quand même y avoir des ajustements ou pas. C'est-à-dire certains peuvent payer plus, d'autres moins.
Vous l'avez dit sur France 2, au cas de vérité.
C'est quoi votre ligne fiscale?
Non, la ligne, c'est qu'on ne veut pas de nouveaux impôts, on ne veut pas augmenter les impôts, encore une fois. Ensuite, c'est le Parlement qui fait le texte et les négociations vont s'engager. Donc il peut y avoir dans les négociations, et on va peut-être parler de la proposition du président de la République, qui se traduirait par des changements d'équilibrage. Et si c'est à l'intérieur d'une enveloppe où les impôts ne sont pas augmentés,
donc
il peut y avoir des choses intelligentes à faire.
Donc ça, c'est la partie négociation parlementaire qui sera après la présentation
ou négociation sociale, si on parle du financement de la sécurité sociale, à la suite de la proposition du président de la République. Il faut y revenir parce que c'est un point important et c'est un point nouveau dans le débat.
Donc ça veut dire qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale pour que tout le monde vous suive et qu'il y aura des discussions au sein d'un autre conclave qui sera chargé d'organiser le budget de la sécurité sociale. On peut présenter les choses comme ça pour que ça soit clair pour tout le monde?
C'est une possibilité, mais je préfère qu'on regarde le détail de tout cela.
Et vous pensez que vous pouvez avancer plus facilement en vous appuyant sur des conclaves ou les syndicats et en laissant finalement l'Assemblée patouiller parce qu'ils ne sont pas d'accord?
Alors,
pardonnez la vulgarité de l'expression patouiller.
C'était pas très joli.
On ne patouille pas avec les parlementaires, jamais. On va avancer en parallèle. C'est-à-dire que j'ai proposé avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qu'on reprenne les discussions avec les parlementaires. En fait, on a déjà commencé l'année dernière. La semaine dernière, je veux dire, j'ai vu Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, Jean-François Husson, rapporteur général au Sénat. Donc, ouais. Donc on va engager le dialogue avec les parlementaires, pour construire. Parce qu'en fait, on dit le Premier ministre rendra ses arbitrages le 15 juillet. Mais les arbitrages, on a fait des travaux préparatoires, mais ils vont déjà être nourris du dialogue avec les parlementaires. Et on attend beaucoup de cela. En parallèle, il y a le conclave. Il peut y avoir d'autres sujets dont se saisissent les partenaires sociaux. Mmh. Ça renvoie à la proposition du président de la République. Et donc, tout ça va nous permettre, dans le dialogue... Alors, c'est pas très simple à gérer, je reconnais, mais moi, je préfère...
C'est pas très lisible.
Mais quand vous dites la proposition du président de la République, est-ce que vous pouvez la rendre plus claire?
Pour résumer, pour les Français, nous allons parler aux représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat pour recueillir leurs idées et avoir un dialogue. Puis, par ailleurs, on va continuer à dialoguer avec les partenaires sociaux pour construire un projet de budget qui sera annoncé par le Premier ministre le 15 juillet. Nous allons continuer à discuter, évidemment, avec les parties prenantes pour essayer d'entrer dans le dialogue à l'Assemblée nationale qui va se dérouler en octobre. Donc là, on a un peu de temps avec... Peut-être des éléments de pré-accord ou pas. Tout ça est effectivement certain.
Ça fait deux fois que vous dites, voilà, la proposition du président de la République. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment, effectivement, vous l'appréhendez?
Le président de la République, lors de son intervention télévisée, a proposé qu'on réfléchisse au financement de la protection sociale, de la sécurité sociale, dont nous savons qu'elle est, pour l'essentiel, d'ailleurs pas pour la totalité, parce qu'en réalité, la TVA
financée par le travail
déjà une partie de la protection sociale, ce qu'on a tendance parfois à oublier, comme 57 milliards d'euros, c'est pas rien. Mais c'est le travail qui finance la protection sociale. Oui. Le travail par...
Et donc dans la manière dont
les charges payées par les salariés sur leur salaire, quand vous touchez votre fiche de salaire, vous voyez bien les prélèvements sociaux, et par les charges payées par les entreprises. Donc il y a une idée ancienne qui est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres sources à la place d'eux
Donc, voilà, il a laissé entendre qu'il pouvait y avoir une TVA sociale. En tout cas, ça a été traduit comme tel.
Pardon de
Karine Becker. Ça a été traduit comme tel. Il n'a pas prononcé ce mot-là.
Il n'a pas prononcé le
mais d'autres
mot.
L'ont fait.
Voilà.
Oui, donc, mais je veux rappeler qu'il y a beaucoup de sources de revenus dans notre pays.
D'accord.
Et qu'il y a plusieurs réflexions qui sont ouvertes par le président de la République, si j'ai bien compris. Je pense avoir bien compris. C'est effectivement... Qu'est-ce qu'on fait baisser comme prélèvement qui porte sur le travail ou sur l'entreprise et
sur
comment
on le
finance
baiser.
Et ce champ est totalement ouvert.
Ça peut être
totalement
CRG,
ouvert.
Par exemple.
Il y a une boîte à outils qui est considérable.
Elle commence à être grande. On
oui,
entend un jour la TVA sociale, l'année blanche le lendemain. On entend sans arrêt les niches, ça recommence. Si vous voulez, il y a un moment donné où entre pas d'augmentation d'impôts, des impôts ciblés, tout ça, on a l'impression que tout est sur la table, mais qu'en fait, rien n'est décidé.
Principe de base, pas d'augmentation des prélèvements obligatoires.
D'accord.
Et contrairement à ce que disait Karine Bécard en introduction, moi, je pense que dans ce moment où nous n'avons pas de majorité au Parlement, ça peut être l'occasion de trouver des nouvelles synthèses sur des sujets... Alors, je comprends que vous trouviez ça, surtout qu'on est au début du mois de juin, incertain.
Non, parce c'est pas que ça, c'est qu'on dirait que c'est des ballons d'essai.
C'est pas des ballons d'essai, c'est des propositions de négociation sur des sujets qui sont tous précis. Sur les retraites, on a posé un cadre précis, le conclave avance. Sur le financement de la protection sociale, encore une fois, c'est une responsabilité qui relève de Catherine Vautrin et d'Astrid Panosyan-Bouvet, et puis évidemment du Premier ministre, sur la méthode. Et il faut déjà attendre que le conclave se termine. C'est là où je dis que le conclave, selon la façon dont il se termine, peut avoir un rôle important dans la suite de l'histoire. S'il y a un accord qui est trouvé, peut-être souhaiteront-ils se saisir de ce sujet, qui est très large, je reconnais, mais on a tout à fait le temps. En plus, il n'est pas dit que ce soit pour la loi de finances de cette année. Ça, c'est un sujet qui n'est pas non plus décidé encore. Si on avance assez vite, on pourra le proposer. D'ailleurs, c'est pas la loi de finances, c'est la loi de finances de la sécurité sociale. Mais peu importe. On pourra le proposer à la rentrée. Et puis sinon, ça peut être pour l'année prochaine. Mais
donc, ça pourrait être une structure un peu pérenne, en fait. Hein, le conclave, c'est une méthode qui vous
La négociation vous sociale, pour moi, c'est quelque chose qui est pérenne. D'ailleurs, ils se saisissent régulièrement de beaucoup de sujets. Donc, c'est déjà le cas. Simplement, dans notre démocratie sociale depuis 44, les conclusions du Conseil national de la Résistance, on a un peu reculé sur le rôle des partenaires sociaux.
Oui.
Là, il y a une opportunité de leur redonner un rôle plus important. Et je pense que c'est un bon complément de la démocratie
parlementaire. Mais ce que vous entendez beaucoup aussi, c'est de dire, enfin, on n'arrivera jamais à réformer tout ce qu'il y a à faire de fond. Maintenant, il faut attendre la présidentielle. Et donc, vous voyez bien, les forces politiques ne sont pas du tout dans l'objectif de dialogue que vous dites. Comme si, au fond, il n'y avait pas de conscience de l'urgence budgétaire et qu'on pouvait encore attendre 2027.
Donc je rebondis, je suis d'accord avec Françoise, il y a un sentiment quand même de flottement, et là il est 12h36 et on n'a toujours pas compris où est-ce qu'on allait trouver 40 milliards d'euros d'économies.
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous deux, mesdames, si vous le permettez.
Mais bien sûr,
allez-y,
vous
le permettez. Faire l'arbitrage.
Voilà.
Merci Nathalie.
Nathalie s'inscrit d'arbitrer, mais je donne la position
alors,
du gouvernement
que
m'ont dit au Parlement. Je pense précisément qu'on est dans un moment d'une particulière gravité, et on peut peut-être y revenir en 3 minutes quand même, parce que c'est important dans tout ce débat. On a une guerre en Ukraine, sur le sol européen, depuis plus de 3 ans, sur lequel on voit bien que les Américains essayent avec nous de l'arrêter, et que c'est difficile, et il faut naturellement continuer. On a des risques au Moyen-Orient, j'y reviens pas, ils sont connus. On a un pays ami, la Chine, mais dont le développement économique et industriel met en risque notre économie. On a enfin une bataille sur les tarifs douaniers
avec les
Américains à mener. J'ajoute que, compte tenu de tout cela, nous avons décidé collectivement d'augmenter nos investissements dans la défense, parce que les menaces, elles sont réelles. Donc, c'est un moment grave pour notre pays.
Donc vous êtes un peu bloqué, on a un sentiment
sérénité,
de flottement.
Et donc, c'est le moment de trouver un consensus par le dialogue pour trouver des solutions à ces problèmes et trouver y compris des solutions innovantes et proposer des réformes importantes.
Mais quand vous voyez l'état d'esprit politique où au fond...
Eh bien, c'est à nous, avec les partenaires sociaux, de faire des propositions vigoureuses et dans la gravité du moment et dans le dialogue qui, encore une fois, se noue aujourd'hui. Donc moi, je ne pars pas...
Vaincu.
Je ne pars pas vaincu, voilà. Loïs Boisson, voilà. Et puis on va essayer d'aller en finale.
On va essayer d'aller
en finale, mais c'est un jeu d'équipe. Le gouvernement, donc quand on est en équipe, on est plus fort. On va faire des propositions. Nous allons, le Premier ministre va faire des propositions courageuses. Nous allons engager le débat avec les parlementaires, devant les Français. Tout cela regarde les Français. Et moi, j'ai bon espoir qu'on trouve des solutions à nos difficultés.
Mais alors, dans les propositions courageuses, ce qu'on se demande, c'est, vous dites, voilà, il va falloir réduire la dépense publique. Est-ce que les ministères sont véritablement prêts à réduire la voilure? Parce que ce matin, il y a une interview de la ministre du Budget,
oui,
Amélie de Montchalin, dans la presse.
Excellente interview.
Dans le journal du dimanche, si je ne me trompe, qui dit, ben, pour l'instant, les ministères, va falloir qu'ils se réveillent un peu parce qu'ils ne jouent pas le jeu. Vous êtes d'accord avec elle ou pas?
Je suis forcément d'accord avec elle, puisqu'on travaille étroitement ensemble.
L'ironie.
Non, pas du tout. Zéro ironie. On s'est encore parlé deux fois hier et on est en contact, on travaille ensemble, évidemment.
Elle dit le compte n'y est pas, pour reprendre précisément son expression.
Alors d'abord, on commence par son propre jardin. J'ai réuni vendredi matin avec Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, les directeurs d'administration centrale de Bercy, qui font un travail remarquable de simplification, de réorganisation pour contribuer à cet effort, et je les salue et je les remercie. Et c'est vrai que, mais ça c'est le débat budgétaire tel qu'il se déroule traditionnellement dans l'État et dans les entreprises. J'étais chef d'entreprise pendant 20 ans.
Oui, mais le moment est grave.
La première copie, elle est un peu dynamique en matière de dépenses. Amélie de Montchalin, avec l'énergie et le professionnalisme qu'on lui connaît, va recevoir les ministres pour que l'édredon rentre dans la valise. Et le Premier ministre a rappelé la règle du jeu. Parce que
Attendez, dans l'opinion cette semaine, on lit, et c'est fascinant, que les ministères ont fait des demandes qui font augmenter les crédits de 8% et qu'ils réclament 20 000 emplois publics supplémentaires pour l'instant. Vous confirmez ces chiffres ou pas, Éric Lombard?
Je ne regarde que l'objectif. Notre objectif, c'est de faire baisser la dépense publique. Alors, je veux rebondir, je ne l'ai pas encore fait, sur les 40 milliards que vous avez évoqués.
C'est un chiffre intangible ou c'est négociable, ça?
C'est un chiffre déjà qui est un peu théorique. Il est dans le rapport d'avancement annuel que, de par les textes, nous devons remettre au Parlement. Et donc, il est dans ce rapport au Parlement. C'est un écart par rapport à ce que serait la tendance si on ne faisait rien. Mais comme on n'a pas l'intention de rien faire. Donc, ce que nous pensons, ce dont nous sommes certains, c'est que si on stabilise la dépense publique, au total, ça nous met dans la trajectoire.
Stabilise seulement.
Mais stabiliser, ça veut dire quoi?
C'est énorme de stabiliser, alors que l'année dernière, elle a monté de près de 4%.
Non, mais ce que je c'est pour que les gens comprennent.
Ça veut dire 35.
On est dans la stabilisation de la dépense et non pas dans la baisse.
On est dans la stabilisation d'ensemble. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire de l'austérité de façon générale. Mais nous avons des ministères, notamment je pense à mon collègue et ami du ministère des Armées, qui a une loi de programmation qui est très
importante.
C'est
comme l'intérieur, vraiment.
Voilà, donc là, il y aura plus de dépenses.
On n'y touche pas, ça.
Et donc ça veut dire que dans d'autres ministères, il y aura des dépenses en baisse. Et puis on a la sécurité sociale. Je rappelle que la sécurité sociale, c'est près de la moitié de la dépense publique.
Mais attendez, juste
et
pour qu'on comprenne tous bien.
Il me semble qu'avec le niveau de dépenses où on est aujourd'hui, retraite, le conclave s'en occupe, et santé, on arrive à bien soigner les Français.
Mais stabilisation de la dépense publique, du coup, ça veut dire quoi? Parce que donc, on entend toujours ce chiffre de 40 milliards d'économies. Stabilisation, ça veut dire 30 milliards, 35 milliards
ça... Alors, stabilisation, ça veut dire que... Mais on est au mois de juin, d'habitude, ces chiffres, on les a au mois de septembre.
Ouais.
Donc, vous comprenez que j'en parle avec prudence.
Mais
c'est qu'on
fourchette.
Sera autour de montants équivalents, voilà, en euros. Autour de.
Moi, je comprends
autour
pas.
De 40 milliards.
Ça veut dire que on a dépensé l'année dernière 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Si nous restons à 1700 milliards d'euros de dépenses publiques, je vous
ça
fais
va.
Voilà. Alors ce sera peut-être encore une fois il faut, parce que dans le déficit, il y a les dépenses et puis il y a les recettes et de ce côté-là, on voit bien que dans la difficulté du moment, les recettes sont que nous suivons mois après mois, on suit tout ça avec la ministre.
Elles sont moins importantes que prévu.
Pour le moment, nous sommes dans les clous.
D'accord.
Pour le moment, nous sommes dans les clous, mais enfin, on est au mois de juin, on n'a pas encore les chiffres du mois de mai, bien sûr.
Attendez, Amélie de Montchalin, parce que ça va avec la dépense publique. Amélie de Montchalin, pareil, dans la même interview, parle de suppression, de réduction de fonctionnaires en France. Vous êtes d'accord ou pas?
Mais
vous êtes toujours d'accord avec Amélie de Montchalin, j'ai
oui,
bien compris. Donc il y aura des fonctionnaires en moins
parce que nous parlons
l'année prochaine.
Oui, l'année dernière, il y a eu une augmentation importante du nombre de fonctionnaires qui a contribué d'ailleurs au dérapage budgétaire et avec l'intelligence artificielle qui, dans les administrations qui font du processus, et c'est pour ça qu'à Bercy d'ailleurs, on réduit les effectifs à Bercy. On donne l'exemple, avec des éléments démographiques dans certains domaines, oui, on doit pouvoir baisser le nombre de fonctionnaires. Les nombres ne sont pas encore fixés parce qu'on est en train d'en parler avec les ministres, mais c'est évidemment nécessaire, c'est ce que font d'ailleurs en parallèle, même si l'État n'est pas une entreprise.
Donc c'est une fin de l'augmentation ou une baisse.
C'est un non-renouvellement des fonctionnaires.
Il faut qu'on engage la baisse du nombre des fonctionnaires, d'accord. Absolument.
Par ailleurs, on entend, sur les niches, puisque ça aussi, ça fait partie des choses qu'on entend depuis plusieurs mois, et sur ce plateau même avec Amélie de Montchalin, la fameuse niche pour les emplois familiaux, on en est où? Parce que certains sont contre, en disant notamment que c'est votre électorat, deuxièmement que ça évite le travail au noir, troisièmement que les services à la personne sont des choses qui ne peuvent pas être faites à l'extérieur. Est-ce que celle-là, vous pouvez dire, on n'y touchera pas, ou est-ce que c'est comme le reste, tout est encore négociable?
Alors, je ne peux rien dire, sauf que nous n'augmenterons pas les impôts dans leur ensemble, puisque vous voyez bien que si on ouvre un débat sur tel ou tel sujet, on anticipe un débat qui aura lieu légitimement avec, notamment pour ce sujet, les parlementaires. Et en revanche, un autre sujet d'économie qui est important et dont on parle souvent, et la ministre en a parlé dans son intervention de ce matin, c'est les agences, les opérateurs de l'État.
Mais ça, vous le dites depuis le début, les agences.
Oui, alors, on a avancé depuis. On a avancé depuis. Et il y a un certain nombre d'opérateurs.
Lesquels ?
Dont. Alors, ça, on ne va peut-être pas tout vous dire tout de suite. On ne va vous donner aucun exemple. La ministre a rappelé que que l'effort allait porter sur un tiers des opérateurs. Je vais rappeler que la plupart du temps, ces opérateurs ont des missions qui sont utiles. Sinon, ils n'existeraient pas. Dans les grands opérateurs, il y a France Travail, par exemple, ou autre. Mais d'abord, ceux qui sont indispensables dans leur mission. Vont avoir des objectifs d'efficacité pour que le coût soit réduit. On va effectivement pouvoir rapprocher certains opérateurs les uns des autres. Puis il y a un sujet sur lequel, moi, je suis très attentif, c'est le renforcement de l'État. On a délégué à des opérateurs un certain nombre de choses. Et on pensait que ce serait mieux fait et moins coûteux. En fait, c'est pas mieux fait et c'est pas moins coûteux.
Vous avez un exemple précis ?
Non.
Bah non.
J'en ai plein. J'espère être invité, donc il faut que j'ai des choses à vous dire.
Mais il faudra en avoir dès maintenant.
Sur les agences,
c'est un peu tôt. Mais tout ça pour vous dire qu'on y travaille très sérieusement et que ça avance.
Et que ça rapporterait 2 à 3 milliards d'euros. Sur l'année blanche, juste votre point de vue technique, parce qu'au Sénat, et même une partie de la majorité dit le plus simple, en fait, c'est d'essayer de geler, de pas augmenter les dépenses en fonction de l'inflation, de geler certaines prestations sociales, de faire un effort global. Est-ce que vous êtes plutôt pour cette méthode ou plutôt d'aller rechercher ministère par ministère des économies ?
On est obligé de distinguer suivant les secteurs, puisque on en a donné l'exemple sur l'État. Si on doit avoir des fonds pour la défense, il faut que d'autres ministères contribuent. Et de la même façon, dans le domaine social, il y a des prestations sur lesquelles probablement on peut les stabiliser, mais d'autres, notamment je pense à ce qui est en faveur des personnes les plus modestes, sur lesquelles, même si l'inflation est très basse cette année, cela demande en tout cas des décisions politiques au cas par cas.
Vous pouvez les adopter l'année blanche, on n'est pas obligé, le périmètre peut-être, on peut les...
C'est ça que je vous dis. Mais dans le cadre d'une stabilité de la dépense publique, stabilité, encore une fois, légère baisse ou stabilité, c'est des sujets qu'on est en train de regarder. Ça dépendra aussi de nos projections économiques. D'accord. Et je reviens sur la nécessité de produire plus. Si on réussit, comme on l'a fait depuis 2017, à continuer à augmenter l'attractivité du pays, à augmenter le développement, l'investissement des entreprises, eh bien ça nous fera plus de ressources et ça nous simplifiera l'équation budgétaire.
Deux petites questions pour finir. La première, on parle d'une taxe prochaine sur les billets de train SNCF pour financer les travaux de rénovation du réseau ferroviaire. On en a entendu parler cette semaine, vous confirmez ou pas ?
Nous ne souhaitons pas mettre en place de nouveaux impôts.
Donc c'est impossible, il n'y aura pas de taxes supplémentaires sur les billets de train cet été.
Je pensais que vous me diriez plutôt que les billets de train sont un peu chers, ce qui est parfois vrai. Non, on ne souhaite pas mettre une nouvelle taxe sur les billets de train.
Et puis, deuxième petite question, avant de tourner la page et de recevoir notre second invité, un référendum sur le budget, c'était ce que proposait François Bayrou. On a compris qu'il n'avait pas lâché l'affaire, qu'il avait toujours envie d'avoir ce référendum. Vous y êtes favorable, vous aussi, ou pas ?
Tout ce qui permet d'associer les Français au moment important qui est le nôtre, me paraît une bonne chose. Le référendum est un des éléments. Ça dépend, comme on le sait, du président de la République. Mais moi, je souhaite, et merci de me donner la parole, qu'on ait un débat public autour de tous ces sujets.
Avec
en fait,
Français.
On engage l'avenir des Français. On n'a pas parlé, pardon, parce qu'on a on n'a pas parlé de la dette. Mais à l'origine de tout ce dont on parle, il y a la dette
3300
qui est
milliards.
Énorme et dont le coût, parce que ceux qui nous prêtent chaque année, on leur paye un intérêt.
Mais est-ce que vous diriez, vu la gravité de la situation, qu'en fait on est dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire soit on décide collectivement, soit on peut avoir le FMI à nos trousses, si on ne fait rien trousse.
Oui, on est dans une situation
où
c'est peut-être la dernière étape, puisque... le coût de la dette cette année va nous coûter 67 milliards d'euros. On va vers les 100 milliards d'euros. Donc, ce qu'on va verser à nos créanciers va être supérieur à ce qu'on verse pour l'éducation nationale ou pour la défense, ce qui n'est pas raisonnable. Donc, il faut absolument qu'on ait la maîtrise de cela. Cette dette est-elle, avec une économie qui va bien, mais qui est insuffisamment forte,
0,7% de croissance, c'est pas
les trois agences de notation nous mettent avec une perspective de notation négative. Mais vous allez me dire, ça fait des années que c'est comme ça. Sauf que la prochaine marche nous met dans une catégorie d'investissement qu'on appelle en anglais non-investment grade, c'est-à-dire qu'on n'est pas un objet d'investissement de la meilleure qualité. Mm-hmm. Ce qui veut dire que les Chinois, qui financent beaucoup la dette de tous les pays endettés, ou les fonds de pension internationaux, ne pourraient pas souscrire à la dette émise par le Trésor public. Ce qui serait un événement d'une grande gravité. On travaillerait naturellement à trouver des alternatives, mais on pourrait aussi se retrouver dans une situation tendue qui limiterait notre souveraineté. Je vais vous donner un exemple pour montrer combien c'est sérieux.
Rapidement.
Vous avez vu, le 2 avril, le président Trump a annoncé des hausses de tarifs considérables. Les marchés financiers ont douté. Il y a une crise sur les marchés de refinancement de la dette américaine, qui d'ailleurs, de façon intéressante, est au même niveau que la nôtre. Il a reculé. Il n'a pas reculé parce qu'il a trouvé que ça heurtait son économie. Il a reculé parce qu'il a eu une crise sur son marché obligataire à lui. Si nous avons une difficulté sur notre marché obligataire, effectivement, dans ces cas-là, il y a un risque que nous souhaitons éviter pour notre pays de perte de souveraineté, parce que dans ces cas-là, on négocierait avec nos créanciers. Et moi, je souhaite négocier avec les élus et avec les partenaires sociaux.
À tout hasard, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle, vous ? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a plein. C'est oui ou non, ça ne prend pas de temps.
Bah, je commence à me dire que vraiment, c'est pas très chic de ne pas l'être. Mais malgré tout, j'assume de ne pas être très chic. Et donc, non, je ne suis pas candidat.
D'accord, merci beaucoup, Éric Lombard. Merci pour la question de Nathalie Saint-Cric. Vous restez avec nous, l'émission n'est pas terminée.
Avec plaisir.
C'est le moment d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécard.
Bonjour Cole Stengler.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de questions politiques. Si vous avez besoin de vous rafraîchir avec un peu d'eau, n'hésitez pas, parce que maintenant vous allez parler. Vous êtes américain, vous êtes journaliste, vous habitez en France depuis bientôt 10 ans et vous commentez la vie politique française pour The New York Times, pour le magazine The Nation, ainsi que pour le quotidien britannique The Guardian. Et vous venez de publier un livre, Le miroir américain, enquête sur la radicalisation des droites et l'avenir de la gauche. C'est sorti aux éditions Les Arènes. D'abord, malgré tout, Cole Stengler, expliquez-nous ce qui est en train de se passer entre Donald Trump et Elon Musk. Depuis 4 jours, on compte les points, pendant qu'ils s'agonisent d'insultes et de menaces en tout genre, par réseaux sociaux interposés la plupart du temps. Alors c'était prévisible, mais on ne pensait pas que la rupture serait aussi violente et, j'ai envie de dire, aussi rapide. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer.
Oui, je pense que c'était prévisible, parce que finalement...
On l'avait dit dans un an, oui, et puis là, au bout de 4 mois, c'est déjà là.
C'était un mariage de convenance, finalement, parce que Donald Trump avait besoin de financer sa campagne électorale contre Kamala Harris. Elon Musk a dépensé 250 millions de dollars, parce que dans le système politique américain, il y a quasiment plus de plafond sur les dents politiques, ce qui a permis à Musk de financer la campagne de Trump. Donc ils avaient finalement des objectifs différents, ils représentent des ailes différentes de la grande coalition républicaine. D'un côté, quelqu'un Trump qui est plus proche, on va dire, de la ligne un peu plus populiste de quelqu'un comme Steve Bannon, incarné par Steve Bannon, son ancien conseiller. Et puis de l'autre côté, Elon Musk qui vient de la tech, de la Silicon Valley. Et on a vu notamment sur ce débat sur les droits de douane qu'ils avaient des visions très différentes. Donc finalement, pour moi, c'est une question de quand finalement ce divorce allait arriver.
Mais on voit clairement Elon Musk en train de contredire, voire de contester clairement ce que fait Donald Trump. Ça peut ternir ternir son image, ça peut abîmer la politique qu'il est en train de mener, ça peut aller jusqu'où ?
Bah, peut-être c'est dur de spéculer trop, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, ce divorce aussi met en lumière, souligne à quel point cette grande coalition est fragile, a toujours été très fragile. C'est ce que fait la droite, c'est ce qu'a fait la droite américaine sous Trump, c'était de rassembler à la fois les classes populaires en dehors des grandes villes, certains d'entre eux qui votaient historiquement à gauche, avec des électeurs de droite traditionnels, classiques. Et je crois aussi, c'est ce qu'on est en train de voir en France avec la recomposition électorale. Et finalement, on voit avec ce budget souligne les tensions, les contradictions. On a d'un côté des gens qui veulent faire encore plus de coupes budgétaires. De l'autre côté, on a des républicains qui disent finalement, si on va trop loin, on risque de faire mal à nos propres électeurs.
Et donc le Parti républicain, vous dites, peut carrément se scinder en deux entre les...
Non, je n'irai pas si loin que ça, mais on voit ces tensions, cette coalition a toujours été très fragile. Ils ont été capables de gagner une élection en ayant des cibles partagées, donc les immigrés surtout, opposition à l'immigration. Aussi cette bataille contre le wokisme qui veut tout et rien dire, finalement, ce mot wokisme, qui est finalement un prétexte pour passer à l'offensive sur toute une série de guerres culturelles. Des cibles partagées, mais finalement, quand il s'agit de gouverner, on voit à quel point c'est beaucoup plus difficile, compliqué
Alors,
de gouverner.
Alors nous, en France, ça nous passionne. Ce qu'on veut savoir, c'est qui gagne à la fin.
Je ne sais pas. Donald Trump reste président, donc je ne sais pas.
Donc ça veut dire quand même que Elon Musk éventuellement peut gagner.
Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je pense qu'il faut pas trop spéculer. Je pense que sur ce qui se passe.
Comment vous observez tout ça, Éric Lombard?
Bah, vous avez
en
noté
pleine
que...
négociation quand même des droits de douane. Hein, vous êtes dans ça en ce moment. Enfin, la France, l'Europe.
Il y a, alors c'est pas lié au sujet d'Elon Musk, mais on reprend un dialogue plus riche et plus fluide avec le gouvernement américain, ce qui est une bonne chose. Au début, c'était effectivement un peu compliqué. Mais j'ai le privilège d'accompagner le président de la République à la première réunion avec Donald Trump dans le bureau ovale. Voilà. Donc là, on retrouve un dialogue. Alors.
Donc ça se passe bien.
Ça se passe mieux. sur la situation en Ukraine, je pense que nous sommes plus alignés. Ça, c'est très important. D'ailleurs, sur les sujets internationaux, nous sommes plus alignés. Nous ne le sommes pas encore sur les droits de douane. Mais mon collègue Laurent Saint-Martin a vu Jamieson Greer et le dialogue aussi est noué. Ça, c'est la Commission européenne qui discute. Moi, je veux réinsister sur le parallélisme entre la France et les États-Unis en matière de situation budgétaire. Parce que quand je parle à mon homologue Scott Bessent, il y a un sujet sur lequel on est complètement d'accord, c'est là-dessus. C'est qu'ils sont dans une situation budgétaire extrêmement difficile, puisqu'ils ont un déficit qui l'année dernière était de 7%, nous c'est 5,8%. Ils ont un marché obligataire qui est beaucoup plus chahuté que le nôtre. Et le texte fiscal que le président Trump, que le gouvernement américain a déposé et qui a l'air de ne pas passer devant le Parlement américain...
C'est des dépenses qui s'envolent sur 10
ans. C'est des dépenses qui s'envolent, des recettes qui diminuent, et on voit que c'est compliqué. Et on a tous été nourris dans l'idée que le privilège du dollar faisait que ça n'avait pas d'importance. En fait, le privilège du dollar, c'est tant que les créanciers y croient, de même que nous avons le privilège de l'euro, mais tant que les créanciers y croient. Et de ce côté-là, il y a un parallélisme entre les deux pays beaucoup plus important.
C'est intéressant parce que vous êtes en train de dire qu'au fond, le vrai juge d'arbitre, ce sont les marchés financiers. Autrement dit, les politiques ont un peu perdu la main, non ?
Vous êtes d'accord que le 5
Quand on est allemand et quand on gère comme en Allemagne, les marchés financiers financent et les politiques décident. La difficulté que nous avons, nos amis américains et nous-mêmes, c'est que nous avons eu des politiques budgétaires qui font qu'effectivement, on risque de perdre notre souveraineté. Mais ce que vous dites est tout à fait exact. C'est ça qui est en jeu.
On va.
Aux États-Unis comme en France. Et même quand on est lié au gouvernement, je ne vais pas me mêler de la politique intérieure américaine, mais on voit bien que même avec la ligne politique qui est la sienne, il arrive aux mêmes contraintes.
Alors, Cole Sengler,
oui, d'accord. Puisqu'on est dans la comparaison, je pense qu'il est important de souligner un autre phénomène qu'on connaît tous les deux, enfin, qu'on connaît en France et aux États-Unis dans nos deux pays, c'est la désindustrialisation et les conséquences drastiques finalement. C'est ce que je documente dans mon livre en Virginie occidentale, un État qui votait historiquement démocrate. On a ces anciens bastions à gauche qui finalement a basculé à l'extrême droite et la désindustrialisation a joué un rôle absolument essentiel. Ouais. C'est un phénomène qui a des coûts sociaux immenses, des coûts économiques, puisque quand les gens perdent leur travail, ils dépensent moins dans leur communauté, dans leur commune, leurs familles sont touchées. Et j'ai envie de dire, on voit ça aussi en France avec ce qui se passe aujourd'hui avec ArcelorMittal, avec des 600 plus de 600 postes qui sont menacés finalement qui pourraient être supprimés à Dunkerque et à Florange notamment. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a vu aux États-Unis.
Et donc du coup, est-ce que ça veut dire que ce président populiste ultranationaliste, un type de président comme ça, peut bientôt arriver en France?
Il faut souligner que il y a personne qui a le même style que Donald Trump en France. Ça, il faut vraiment, vraiment insister là-dessus. En revanche, ce qui m'intéresse et ce qui me fait peur aussi, c'est qu'on voit cette coalition, finalement, cet électorat interclassiste de droite en France qui est composé à la fois par des classes populaires en dehors des grandes villes qui votent à l'extrême droite, mais aussi la droite traditionnelle qui se radicalise, qui devient aujourd'hui de plus en plus, je dirais, obsédée par la question de l'immigration, qui passe à l'offensive sur ces guerres culturelles. Quand j'entends, par exemple, des politiciens mainstream qui utilisent des mots comme wokisme, qui utilisent des mots comme ensauvagement, décivilisation...
Vous parlez de Bruno Retailleau, vous parlez de Gérald Darmanin...
Je pense même au président de la République qui utilise le mot décivilisation. On est dans un glissement qui est très inquiétant.
Merci beaucoup, c'était trop court. Merci à tous les deux. Merci Cole Stengler, je rappelle le titre de votre livre Le miroir américain, paru aux éditions Les Arènes. Merci Eric Lombard. On attend votre budget avant le 14 juillet. Vous avez dit le 15 juillet pendant l'émission. François Bayrou avait promis avant le 14. Merci à toute l'équipe de Questions Politiques. Fabienne Lemoyle à la rédaction en chef. Amaury Baucher à la programmation, évidemment. Je vous souhaite à tous une très belle fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.